Vous êtes bien sur le 101.5 FM, il est 14h. Bienvenue dans On n'a qu'à inventer, une toute nouvelle émission de la grille de Radio G. On n'a qu'à inventer, c'est une série de portraits radiophoniques de créatives et créatifs des temps modernes, un entretien de 40 minutes, tout pile, pour faire connaissance avec l'invité du jour, découvrir son parcours de vie, comprendre ses sources d'inspiration, décortiquer son processus créatif parmi tant d'autres choses. 40 minutes pour échanger avec une personnalité passionnée et passionnante, de celle qui crée, qui fabrique, en un mot, de celle qui invente. Aujourd'hui, pour le second numéro d'On n'a qu'à inventer, j'ai le plaisir d'accueillir en studio une autrice illustratrice bien connue des Angevins et des Angevines. Vous avez forcément vu son travail ici ou là, elle est partout. Dans vos librairies préférées, sur vos réseaux sociaux fétiches et peut-être même déjà chez vous. Il n'est pas impossible que vous possédiez un ou plusieurs de ses ouvrages déjà publiés, Et puis Colette par exemple, ou encore Tout plaquer et aller prendre un bain, voire même les Wonder Woman aussi mettent une culotte gainante. Mais il serait dommage de réduire cette trentenaire pétillante et audacieuse à son seul environnement angevin. Son travail est reconnu bien au-delà de notre jolie région et se décline autant dans des campagnes publicitaires que sur des calendriers, des agendas, que sais-je encore, une quasi-multinationale à elle toute seule. Bref, difficile de passer à côté de la créativité colorée et optimiste de mon invité du jour qui sera, qu'on se le dise, la première femme puissante, et sûrement pas la dernière, au micro d'On n'a qu'à inventer. Puissante par sa capacité à se raconter et à mettre en scène son quotidien à travers des illustrations qui peuvent parler à chacun et chacune d'entre nous, et peut-être un peu plus spécialement encore à celles et ceux parmi nous qui vivent la formidable aventure de la parentalité moderne, mais puissante également dans son affirmation de ce qu'elle est, une femme en 2020, tout simplement. Ensemble, nous allons évoquer son parcours, explorer son processus créatif, comprendre ce qui nourrit sa créativité, ce qui alimente sa motivation et sa détermination à créer, malgré les malgrés. Mon invité du jour, c'est Matou, et nous avons 40 minutes, tout pile, pour faire ensemble un petit peu mieux connaissance. On est dimanche, on est bien, on est sur Radio G, on n'a qu'à inventer, saison 1, épisode 2, c'est parti! Bonjour Matou.
Bonjour Vincent.
Et bienvenue, merci d'être là aujourd'hui dans
Avec
le studio
plaisir.
De Radio G. Si tu veux bien, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, de bien avoir un ou deux qui n'ont pas entendu parler de toi. Qui es-tu ?
Bah, tu l'as déjà fait, je ne sais pas ce que je peux rajouter. Donc effectivement, je m'appelle Matou, j'ai 37 ans, je suis angevine, voilà, je suis illustratrice, autrice de bande dessinée. Voilà, c'est mon principal métier maintenant, je fais des livres. Voilà.
Beaucoup de livres sont Beaucoup déjà sortis. T'en as combien ? On y reviendra. Mais
7 ou 8 maintenant, je crois. Ouais, avec l'agenda.
T'es au point où tu sais même plus.
Ouais, non. C'est-à-dire que je compte pas, c'est pas bien. Je suis pas très assidue, pas très rigoureuse là-dessus.
Bon. Tu as accepté mon invitation, je t'en remercie beaucoup. Comme je l'ai dit en introduction, on va explorer un petit peu ton univers, qui tu es, comment tu crées surtout, puisque c'est vraiment le cœur de l'émission. D'abord, je vais te proposer un petit montage sonore qui devrait t'évoquer quelques souvenirs. On écoute.
Ok.
J'ai entendu une échelle.
Il y a quelqu'un sur toi.
C'est peut-être le Père Noël.
Pas encore, Charlie.
Cette année, Scott Calvin découvre l'esprit de Noël d'une façon originale.
Hé, non !
Par accident.
S'il m'arrive quoi que ce soit, mettez mon costume, les rennes sauront quoi faire.
C'est le Père Noël. T'as tué le Père Noël.
De la mentale.
Est-ce que tu peux partager avec les auditeurs auditrices que tout ça t'évoque?
Ça commence par Super Noël. C'est le film c'est mon film de Noël préféré que je regardais avec mes sœurs et qu'on regarde toujours encore à chaque Noël, que je regarde maintenant avec ma fille et ma belle-fille et voilà, avec du chocolat chaud et beaucoup de chocolat. Et donc c'est l'histoire de d'un papa qui croit pas du tout au Père Noël et qui est en instance de divorce, donc et qui passe Noël tout seul avec son fils, et en fait dans la nuit le Père Noël le vrai tombe de leur toit et il prend l'habit pour la soirée, et en fait il devient le Père Noël dans l'année, en fait il grossit, il y a sa barbe qui pousse, et c'est trop génial.
Je croyais que t'allais dire c'est trop bien fait pour avoir eu la bande d'annonce. C'est bien fait de l'époque, quoi.
Mais c'est un très vieux film.
Ça a une vingtaine d'années peut-être.
Je pense au moins, ouais. Je pense que ouais. Si tu le vois maintenant, si tu l'as jamais vu de ta vie, c'est pas la peine, en fait, tu vois. En fait, c'est soit ça te rappelle un truc, soit c'est une madeleine, en fait, un peu de Noël, une madeleine un petit peu au goût de cannelle, tu vois, soit c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas le film de l'année, même du siècle, quoi, du tout. Mais voilà, moi,
un
c'est
bon
ma
souvenir.
Petite madeleine. Ouais, voilà, c'est
un bon souvenir, c'est quelque chose que tu transmets.
Carrément. Et en plus, il y a la suite, il y a Super Noël, Hyper Super Noël, Méga, enfin, je sais plus c'est quoi les titres, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Et c'est tout pourri, encore pire, mais bon, voilà, c'est les suites, quoi.
C'est pire en pire.
Ouais, voilà. Donc voilà.
Donc ça t'évoquait l'enfance.
Ouais, ça,
quand on a préparé l'émission ensemble.
Ouais, quand j'étais petite avec mes sœurs. Et après, tu as
entendu Blur avec le titre Girls and Boys.
Ouais, c'était un petit peu mon groupe de collège-lycée, tu vois. Ouais. Il y avait cette bataille entre les frères Gallagher et Blur. Et moi, j'ai toujours pris parti pour Blur. Voilà.
Alors, c'était... les frères Gallagher, hein, pour certains de nos auditeurs, ça ne va rien évoquer. Est-ce que tu peux nous...
Oui, alors vas-y, redis-moi. Le groupe des frères Gallagher,
Oasis,
c'est... Oasis,
sûr.
Voilà, merci. Ouais. Voilà, ça commence
bien. Bien sûr, comme si ça coulait de sorte.
Non, mais je veux dire, c'est dimanche, Oasis. On n'est pas obligé de tout savoir, tu vois. On a le droit à un petit peu de pause. Donc c'était le gros conflit entre Blur et Oasis, et on devait, enfin je me rappelle qu'il fallait prendre parti, quoi, à l'époque, et je trouvais que Blur était quand même plus moi j'ai toujours adoré Blur, donc voilà.
Donc,
m'as demandé ce qui me rappelait musicalement mon collège lycée, je te dis ça, voilà.
Et ensuite nous avons entendu le groupe Java avec le titre Sexe, Accordéon et Alcool. Et tu m'avais indiqué que ça t'évoquait plutôt la période des études.
Ouais, je pense que c'était plutôt ça, cette période-là, où moi je suis partie à Aix-en-Provence pour faire mes études de sciences politiques là-bas. Je pense que je me rappelle, j'ai goûté un petit peu ça. Donc voilà, ça me rappelle un peu le Sud.
Donc des études de sciences politiques, rien à voir avec ton métier d'aujourd'hui.
Non, comme quoi. Après, ça me sert tous les jours, je pense, ce que je disais. Je dis souvent ça, en fait, parce qu'au début, je reprochais mes parents en disant oui, ils n'ont pas voulu que je fasse du dessin. Des études de dessin, c'est vraiment nul, c'est nul, le mien. Et en fait, au final, je me dis que... ça m'a servi dans certains sens parce que ça m'a appris l'oralité. Je faisais beaucoup de théâtre avant, mais quand même, ça m'a permis aussi de parler de tous les sujets, n'importe quoi. Ça me permet d'être plus à l'aise avec le monde, avec les gens, etc. Et au final, ça me sert tous les jours en dédicace, quand je rencontre des gens, que c'est quand même une grande partie de mon métier maintenant, en fait, finalement.
Quand tu passes à la radio.
Ouais, voilà. Aussi.
Ton quotidien, quoi.
Ouais, voilà, bien entendu. Et ça me permet. Donc, je trouve que c'est finalement, ça a été pas mal. Puis, ça me permet d'arriver un peu en autodidacte sur le métier. Et c'est finalement intéressant parce que je sais pas si j'aurais. Tu vois, si j'étais allée dans une école de dessin, peut-être que je me serais confrontée à d'autres excellents artistes et que je me serais dit, moi, je suis pas capable, en fait. Et donc, là, en fait, finalement, en m'étant lancée un peu toute seule dans mon coin, ça m'a peut-être permis de faire mon petit trou tranquillou, quoi.
Tu as commencé en tant que graphiste ? C'était ton premier métier, si je me trompe pas. Comment est-ce que tu es passé des études de sciences politiques au métier de graphiste?
Mais en fait, mes études de sciences politiques sont terminées par un master en marketing politique, donc c'est-à-dire que normalement pour se destiner à être directeur de cabinet ou ce genre de choses. Emploi que j'ai bien sûr pas trouvé à la sortie des études, faut être réaliste. Mais j'ai travaillé plutôt dans les services communication des structures publiques. Ou alors, et aussi après dans une structure de conseil stratégie politique. Et donc, en fait, il y avait quand même, au-delà du conseil, il y a aussi de la communication beaucoup.
D'accord.
Finalement, j'ai commencé à travailler sur des supports de com, à éditer des plaquettes, des flyers, à finalement me former en autodidacte sur les logiciels de PAO. Et puis petit à petit, vraiment à la faveur d'une rupture conventionnelle et d'un emploi qui périclitait un peu, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. J'avais pas d'enfant encore à l'époque, j'avais pas de responsabilité, je me sentais vraiment assez libre de faire ce que je voulais, enfin, en tout cas, de prendre des risques. Et donc, je me suis mis à mon compte en graphiste au début.
Toute seule, en équipe
Toute seule chez moi. Ouais. Voilà, toute seule chez moi. C'était en 2011. J'avais déjà un ordinateur que j'avais eu pour mon anniversaire, je crois. Donc, j'avais mon ordinateur. J'ai juste eu à créer un petit bureau dans la maison. Et puis, j'ai lancé un peu des appels à droite à gauche en me disant que je m'installais, que je pouvais faire du dessin un peu, mais je ne le disais pas trop parce que je me sentais pas légitime. Encore une fois, le fameux syndrome de l'impostrice. Je ne me sentais pas légitime pour le dessin, donc j'ai un peu au début plutôt commencé par faire des plaquettes. Puis après, petit à petit, j'ai fait plus de dessins. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait plus que ça.
Tu avais déjà un blog à l'époque, si je ne me trompe
oui.
pas, qui s'appelait Crayon d'humeur.
Crayon d'humeur.
J'ai révisé un
ouais,
peu.
C'est là. Bien, bravo.
Que tu as ouvert bien avant 2011, si je ne me trompe pas.
Ouais, 2007.
2007,
ouais,
d'accord.
Il a de l'âge.
Il existe encore ou il est...
Il existe encore, mais je ne publie plus depuis longtemps, en fait. D'accord. Maintenant, je privilégie uniquement les réseaux sociaux. Ouais.
Donc, ça a parlé à pas mal de nos auditeurs. Ce blog, il est arrivé aussi dans une mouvance de blog. Alors, les blogs, pour les plus jeunes de nos auditeurs auditrices, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent.
Oui.
Faut dire
coucou, les jeunes.
C'est, comment on peut dire, comment on peut définir un blog
Un blog, c'est un endroit... C'est, à la base, c'est une sorte de... comment dire, de carnet secret, tu sais, de journal intime, ouais. Public.
Okay. Ouais, un mini-site sur lequel chacune peut raconter sa vie.
Publier du contenu qui est souvent à la base assez personnel, qui est souvent à la base plutôt testimonial, enfin, on raconte un peu plus ou moins sa vie. Et le blog BD est né dans les 2005, enfin, je sais pas, c'est Laurel qui a commencé avec Un crayon dans le cœur, Pénélope Baju aussi avec Ma vie est tout à fait fascinante. Là, c'est vraiment les blogs BD fondateurs, en fait. Je pense du blog BD par instant, c'est-à-dire qu'au-delà de juste écrire un texte où on raconte sa vie, là, c'est des petits dessins, des petits strips où on raconte aussi sa vie, mais en dessin.
Et sa vie de femme, parce que tu as donné deux exemples, Laurel et Pénélope Bagieu, qui sont
des
femmes,
c'est ça,
de la même
exactement.
Génération que la tienne, qui ont raconté beaucoup de leur intimité, mais sous une forme romancée, peut-être,
pourrait dire. Oui, puis c'était aussi pas que la vie de femme, femme
lambda,
girly, tout cucu, comme on pourrait le penser. C'est, enfin, voilà, des réactions sur la vie de tous les jours, mais je pense que c'est aussi ça a été créé aussi, enfin, en tout cas pour les femmes, c'était en réaction à la BD... très masculine, où on avait du mal à faire un peu son trou quand même à l'époque, et encore aujourd'hui maintenant, hein, faut être réaliste, même s'il y en a de plus en plus. Et donc c'était un moyen, en fait, finalement, de proposer un travail, de proposer une vision, de proposer un style au-delà de la publication dans un vrai livre, qui était très compliqué à l'époque. Encore maintenant.
Et Pénélope Bagieu est sûrement connue de nos auditeurs et auditrices.
Bien sûr.
Elle a un grand succès, notamment avec ses dernières bandes dessinées.
Culottée. Son adaptation du livre de Roald Dahl, Sacrée sorcière. Et puis, moi, mon préféré d'elle, c'est California Dreaming, où elle a vraiment un traitement graphique qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui se lance des vrais défis, je trouve, et graphique et en termes de contenu. Et à chaque fois, personnellement, je trouve que c'est un grand succès. De toute façon, ça se voit, hein, dans les faits. Hein, c'est énorme, c'est vraiment super. C'est quand même pour moi une sorte de... Tu vois, c'est un peu la Barack Obama de la BD, donc voilà.
Ah oui, quand même. Tu mets la barre.
je mets la barre.
Ah,
elle le mérite, elle le mérite.
Pénélope Bagieu, on invite les auditeurs auditrices à aller découvrir son travail. De toute façon, vous allez très vite tomber dessus. Et vous avez forcément... elle aussi, vous l'avez forcément déjà vue en librairie, en interview. Elle est assez médiatisée et elle incarne la jeune génération de femmes dessinatrices, illustratrices, autrices, qui revendiquent aussi des messages, comme tu disais, pas seulement gnangnan, girly,
mais en tout cas féministe et engagée.
Et on reviendra sur ces thématiques, forcément.
Ouais, avec plaisir.
À propos de féminisme et d'engagement, je vais te proposer une petite pause musicale pour souffler un petit coup. Tu as choisi de faire écouter aux éditeurs auditrices Lizzo, et non pas Lizzo. Ah, moi, je mettais un double Z,
mais pourquoi pas,
c'est Lizzo avec le titre Juice. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix en quelques secondes?
Je sais pas, je trouve que c'est la nouvelle Beyoncé. Cette meuf, elle a vraiment de la poigne, elle est hyper powerful, c'est vachement chouette.
Alors, c'est Lizzo, sur Radio G, vous êtes bien dans On n'a qu'à inventer, à tout de suite.
LV all over. I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault.
Sur Radio G, dans On n'a qu'à inventer, une émission qui s'intéresse à la créativité à travers des portraits radiophoniques de créatives et créatives, inspirantes, passionnantes et passionnées. Aujourd'hui, nous recevons Matou. Matou, elle est autrice, illustratrice. Je disais en introduction de l'émission, vous connaissez forcément son travail parce qu'on la voit partout. Merci encore, Matou, d'être au micro de l'émission On n'a qu'à inventer. On parlait pendant la pause musicale, donc c'était l'ISO hein, sur Radio G, le titre Juice. On parlait de l'importance de l'inspiration des artistes, notamment. Hein, je te laisse redire, tu vas le dire beaucoup mieux que moi. voilà.
Non, mais c'est parce que c'est vrai que moi, je suis la première à revendiquer le fait qu'il ne fallait pas voler mon travail, parce que j'ai beaucoup, effectivement, sur les réseaux sociaux, hein, comme on publie des dessins sur les internets, que c'est beaucoup repris, etc. Mais donc, j'ai vraiment cette volonté-là de travailler sur le respect du droit d'auteur, et j'en parle beaucoup. Mais c'est important aussi de dire que l'inspiration est importante dans le travail artistique, et que j'aime beaucoup le fait de se dire qu'on s'inspire tous les uns des autres, et il y a ce côté très... empouvoirant, comme tu me disais, ce que moi je dis empowerment, mais très prétentieux de le dire en anglais, mais ce côté où finalement on serre les coudes pour pouvoir finalement faire passer les messages qu'on a besoin de passer, parce que c'est ce que je te disais aussi, je pense que l'art en tout cas, être artiste aujourd'hui, c'est pour moi, mais c'est vrai que ça l'est pas pour tout le monde, pour moi c'est pas seulement divertir les gens ou faire sourire, c'est aussi une de mes principales missions, j'avoue, j'aime beaucoup, mais c'est aussi de faire passer des messages, et ça m'importe de plus en plus. Alors effectivement, ça m'importait pas forcément quand j'avais 24 ans et que j'ai lancé mon blog, mais aujourd'hui ça m'importe aussi d'aider les gens, en fait c'est vraiment mon... j'ai l'impression des fois d'avoir une sorte de mission sociale, et ça, je préfère vachement, j'adore ça.
Matou reconnu d'utilité publique depuis 2007.
Mais j'avoue que vu les messages que je reçois des gens, c'est ce que je préfère faire en fait, c'est très chronophage, hein. Voilà, mais c'est vrai que répondre aux gens, échanger avec eux, je trouve que c'est ça le vrai intérêt. Je fais pas des dessins pour les envoyer dans le vide intersidéral, en fait. Ce qui est intéressant, c'est, oui, dans le cosmos, c'est l'intérêt, c'est d'avoir des retours en fait de gens, et d'en pouvoir en parler, et de pouvoir moi-même aussi grandir, avancer avec eux, quoi.
Tu es très présente sur les réseaux sociaux. D'abord Facebook et puis maintenant Instagram. Tu me disais ça hors antenne aussi tout à l'heure. Donc ce que tu dis, c'est très important pour toi d'être en lien direct avec les gens. Quand tu dis chronophage, tu passes combien de temps, je sais pas, par jour, par semaine? Tu sais à peu près quantifier?
Beaucoup trop. Des fois à 5, entre 5 et 7 heures par jour. Ouais, c'est énorme.
De relations avec les gens?
D'échanges sur les postes, de présence sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Donc ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où je n'y vais pas du tout parce qu'il faut que je travaille, il faut que j'avance. Mais tu vois, par exemple, le jour de mon anniversaire, par exemple, où c'est un jour où je vais répondre aux gens, je vais échanger avec eux, etc. Ben là, j'ai passé 7h28 sur Instagram.
Ah oui, t'as carrément le...
Ouais, ben j'ai regardé parce que c'est Yoann qui m'a dit, mais va voir quand même, va voir.
Donc Yoann, c'est ton compagnon, oui, hein, me permets de le dire à l'antenne. Oui. Il est très présent sur les réseaux sociaux à travers tes dessins aussi.
Oui, aussi, malheureusement, le pauvre.
On parlait aussi, dans la préparation de l'émission, d'un collectif qui s'appelle Les Artistes ont-ils besoin de manger, j'espère ne pas écorcher. Tu voulais attirer l'attention sur cette initiative.
Ouais, c'est un livre, ce que Martin Page et Colline Pierret, qui sont des autrices et un auteur angevin, ils habitent dans le coin là, à côté, ils vont bientôt déménager, mais ils ont créé une maison d'édition super qui s'appelle Monstrographe. Et ils ont demandé à différents artistes de répondre à une sorte de questionnaire, en fait, toutes leurs réponses sont compilées dans cet ouvrage collectif qui s'appelle « Les artistes ont-ils besoin de manger ?». Je trouve ça vachement intéressant parce qu'on voit, en fait, en fonction des différents métiers, des différentes postures, comment on fait pour être artiste aujourd'hui, comment on fait pour en vivre vraiment, et qu'est-ce que ça veut dire être artiste aujourd'hui, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'en plus en ce moment la situation des artistes auteurs est quelque peu critique, ou même les intermittents du spectacle, etc. Avec le Covid, c'est quand même les grands oubliés finalement de toutes les aides, et enfin voilà, c'est vrai que c'est les concerts qui vont reprendre en dernier aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant de pouvoir en parler, de les soutenir et de pas oublier que c'était chouette qu'on allait à des concerts, que c'était vraiment chouette, c'était des moments super.
Donc ça parle de ta volonté d'engagement et en effet de porter ou de relayer des messages qui te semblent importants.
Oui, je pense que c'est important aussi de dire qu'on fait pas ce métier là gratuitement, qu'effectivement c'est des métiers qui sont hyper gratifiants par moment, parce que c'est des métiers comme on dit passion, c'est des métiers qui sont hyper réjouissants, parce que c'est directement nous-mêmes qui nous mettons en avant, donc c'est quand les retours sont positifs, ils sont hyper... ça nous dépasse, ça nous déborde, c'est vraiment bien. Mais après, quand il y a des critiques ou des choses qui sont négatives, bon, c'est aussi en plein fouet, c'est comme des grosses claques, quoi. Donc c'est important aussi de dire que c'est pas qu'un métier joie et plaisir, et que comme dans tous les métiers, il y a des moments moins drôles.
J'ai dans les mains... Je l'attrape. la toute nouvelle BD qui vient juste de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle À volonté, sous-titre Tu t'es vu quand tu manges, signé de Mademoiselle Caroline et Matou. Matou, c'est toi, les auditeurs auditrices l'auront compris. Mademoiselle Caroline, c'est donc ta co-autrice.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le pourquoi du comment de cette bande dessinée ?
Alors, c'est une bande dessinée c'est pas souvent, on est super fiers d'avoir fait ça vraiment à quatre mains, c'est-à-dire et le scénario et les dessins, donc vraiment même dans les dessins, c'est mélangé, il y a un peu de Caro, un peu de moi, et on a vraiment travaillé en binôme essentiellement pendant le confinement, parce que finalement on avait travaillé les textes tout avant, mais la réalisation effective s'est passée pendant le confinement. On s'envoyait les fichiers Photoshop et puis à rajouter des personnages, rajouter des trucs, voilà, et on est super super fiers de cette BD, enfin en tout cas par rapport au processus, moi je suis super fière d'avoir réussi à faire ça, et puis le sujet de la grossophobie, bon c'est vraiment le sujet qui nous réunit toutes les deux, le rapport au corps, l'estime de soi, et quand on a réfléchi, quand on a assez dit, on a commencé par se dire on veut faire quelque chose ensemble, et quand on s'est dit sur quoi, et ben finalement c'est ce sujet là qui est arrivé finalement le premier. Moi je voulais parler des injonctions, et finalement les injonctions sur le corps, sur le regard porté sur le corps, le corps, la grossophobie, etc., tout ça, ça s'est lié, et on s'est dit on va parler de ça, et on va parler de notre expérience. Donc c'est vraiment du témoignage finalement, des petites choses qui sont passées dans notre vie, et en fait l'objectif c'est de réunir tout ça en une journée, on appelle la journée d'une grosse, et 24 heures dans la vie d'une grosse, et c'est pour montrer en fait finalement mis bout à bout toutes les petites remarques qui sont soi-disant gentilles et bienveillantes que nous recevons tous les jours.
On va écouter un petit document sonore à ce propos.
Super.
Je te laisse découvrir.
Ok.
On s'est rencontrés, Matou et moi, dans un salon du livre à Montaigu. Et on a tout de suite sympathisé, on a vachement accroché. Et au fur et à mesure, on a gardé contact. On s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse un album ensemble. On a évidemment cherché alors le sujet, le thème. On est parti dans toutes les directions. Et en fait, on se rendait compte au fur et à mesure de notre discussion qu'on ne parlait que de notre poids, de nos expériences plus ou moins heureuses et plus ou moins malheureuses là-dessus. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrête de chercher. Le sujet, il est là et on va faire quelque chose là-dessus. Au début, on voulait faire plutôt rigolo, genre des anecdotes qui nous étaient arrivées. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas si drôle que ça. Et on a décidé de pousser un peu plus, et c'est comme ça qu'on a fait la BD que vous avez entre les mains. Alors, comment on a fait ? On s'est réunis, je crois, deux fois dans un hôtel, toutes les deux. On s'est retrouvés une fois à Lyon, une fois à Nantes, je crois. On a pris un hôtel pour le week-end et on s'est mis à écrire. Une fois qu'on avait une espèce de petit scénario de storyboard, on s'est lancé chacune. L'une commençait la page, l'autre la complétait, et inversement. Donc c'était très très rigolo. Moi j'adorais faire ça. Genre elle commençait les décors, je mettais les personnages dessus. Ou alors je commençais, donc je choisissais mes couleurs et ma touche collée dessus, donc et inversement à chaque fois. Hein. Donc c'était vraiment rigolo. Alors parce que déjà en fait c'est la moitié du travail de réaliser par l'autre, donc c'est super cool. Et puis bah ça change en fait. On n'est pas seul maître à bord. Et quand ça colle bien comme ça colle bien entre nous deux, bah ça coule de source et c'est vraiment extrêmement plaisant.
C'est ça aussi, on n'a qu'à inventer des petites surprises qu'on ne voit pas venir. On a donc entendu Mademoiselle Caroline,
mais
qui est ta co-autrice.
Mais tu l'as eu au téléphone ? Tu l'as appelée ?
C'est les secrets de l'émission, Matou, je ne peux pas tout te dire.
Ah, c'est dingue,
elle a accepté,
rien dit.
Bah non, heureusement que tu n'as rien dit. Elle a accepté de livrer ce petit témoignage. Et puis, je lui ai posé une deuxième question, qui était de partager avec les auditeurs une anecdote éventuellement sur ton processus, révélatrice en tout cas de ton processus créatif.
Ah. J'ai hâte de savoir ça.
Je prépare la piste et on l'écoute tout de suite.
J'ai l'impression qu'elle est hyper plus rapide que moi et ça c'est très très énervant, c'est-à-dire qu'on lui demande un truc, elle le fait quasiment dans l'heure. Après on travaille pas exactement pareil, elle travaille à la main, elle scanne son image, elle passe au noir, enfin bon c'est vraiment hyper décortiqué alors que moi je fais directement à la tablette. Et justement elle est venue cet été pour qu'on travaille encore un peu sur le lancement en créant un compte Instagram dédié à notre BD. Et je lui fais essayer ma tablette graphique. Et depuis, elle s'en est achetée une. Et je crois qu'elle est passée à la tablette graphique. Donc, en fait, grâce à cette BD, elle a changé de manière de travailler. Eh ben, écoute, Matou, j'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu mangeras des pâtes ce soir. Et que tu boiras un cointropolitain préparé par Johan. Je vous embrasse tous les trois. Et normalement, on va se revoir assez vite pour plein, plein de dédicaces qui, j'espère, seront... très festive, si tu vois ce que je veux dire.
Est-ce que tu vois ce qu'elle veut dire ?
Oui, très très bien. On a déjà des repas de prévu avec du fromage fondu, c'est déjà calé. Mais ouais, ça me touche énormément, ça me fait super plaisir. Et effectivement, c'est grâce à elle, en fait, parce qu'effectivement, je dessine complètement la tablette maintenant. Ça m'a changé ma vie, c'est vraiment trop bien, mais je travaille encore plus vite. C'est super, et en même temps, c'est j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir aussi bien dessiner. Enfin, en tout cas, elle n'est pas assez aussi contente de mon dessin que quand je le fais à la main. Et en fait, c'est vraiment super bien. Et j'arrivais pas, j'avais eu un iPad Pro et je voyais que tout le monde faisait à l'iPad. Je me dis, mais vraiment, je suis vraiment une vieille, j'arrive pas à m'y mettre. Et en fait, sur la tablette graphique, la Cintiq est vraiment énorme et tout. Là, j'ai vraiment toute la place de pouvoir faire ce que je veux. Et puis, je garde mes réflexes avec Photoshop, puisque ça reste les logiciels que je connais. Il y a pas... Voilà, je suis quand même un peu une amie, j'aime pas les changements, en fait, finalement, quand même.
Est-ce que tu auras un petit message pour Mademoiselle Caroline
qui
écoutera l'émission, j'en suis sûre.
En plus, elle est malade. Pauvre bichette en ce moment, donc on est en dédicace et il y en a qui sont annulés. Je suis triste de pas la voir, mais voilà. Non, mais c'est je suis super contente. Mais je remercie ce printemps du livre de Montaigu où on s'est rencontrés en 2016 et qui vraiment nous a permis de créer cette belle amitié, puis en plus de faire ce beau projet dont je suis hyper fière.
Qui a dit entre vous deux, qui a écrit plutôt « Moi, je m'aime quand je ferme les yeux et que j'imagine une moi en mieux. Je m'aime jamais bien très longtemps, je m'aime par erreur sur un malentendu. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse une grande partie du temps, ça ne m'empêche pas de vivre, de manger, de rire, de faire du sport. Mais encore aujourd'hui, alors que je sais ma volonté malgré tout de m'accepter tel que je suis, à la question « Quel vœu demanderais-tu là tout de suite si une fée se penchait sur ton berceau / bureau ?» Eh bien, je demanderais 30 kilos de moins. Même pas la paix dans le monde, j'ai déjà bien compris que Miss France, c'était pas pour moi.
C'est moi qui ai dit ça.
C'est toi qui as dit ça.
je plaide coupable. Mais Caro est tout à fait d'accord avec moi, j'en suis sûre.
C'était donc publié sur tes réseaux il y a quelques jours, à l'occasion de la sortie du livre, je pense, puisque le livre à volonté parle de la grossophobie ordinaire, on pourrait dire, hein, si
oui,
j'ai
tout
bien
à fait,
compris.
Ouais.
Et donc c'était en réaction aux réactions que tu as reçues directement sur les réseaux sociaux, de personnes qui témoignaient de leur sympathie ou de leur...
Ou leur désamour, en fait, c'est ça qu'on se rend compte. D'accord. En fait. Moi, je me rends compte et ça me fait, ça fait beaucoup de peine, finalement. Mais je suis un peu comme elle. Alors, je vais parler de femmes, hein, parce que je n'ai pas de retour d'hommes. Je ne dis pas que les hommes, que ça n'existe pas, mais globalement, les femmes ont quand même beaucoup plus d'injonctions et de pression sur ce sujet-là. Et je suis triste de me rendre compte qu'il y a autant de femmes qui ne s'aiment pas et qui... et des fois, c'est même pas en rapport au poids. particulièrement, ou alors on est sur comme moi je l'ai dit, 1 ou 2 kilos de trop, donc bah moi ça me fait un peu rire dans l'absolu parce que moi j'en ai plutôt 30, donc mais en même temps ça me fait rire et en même temps ça me fait pas rire, parce que il y a vraiment cette pression là où les femmes se pourrissent la vie juste à cause de quelques kilos, ou à cause de quelques boutons, ou à cause de quelques, je sais pas, de cheveux qui sont trop raides, de voilà, de choses qui va pas avec ce qu'on nous impose, ce qu'on nous dit. Et ça, c'est triste, quoi. C'est triste qu'on en soit tout arrivé là, à ces injonctions-là qui nous pèsent et dans laquelle on n'arrive pas à se départir, quoi. Ça, c'est assez compliqué, je trouve, de me rendre compte, finalement, avec cette BD où moi, je parlais, voilà, bon, bah, c'est vrai. Et je trouve ça important de dire, ça m'empêche pas d'être heureuse. Enfin, je veux dire, je suis pas, je sais pas, ça me met pas dans une dépression forte, tu vois, mais c'est juste que c'est toujours en arrière-plan. Il y a des jours, ça c'est un peu plus en avant-plan et c'est moins drôle, mais c'est toujours en arrière-plan de la vie, quoi. Et c'est ce qu'on voulait montrer dans de cette journée, dans cette BD aussi, cette journée où finalement nous on fait notre vie et tout, puis hop, bam, ah là, vous les grosses, ah oui, vous êtes tout le temps marrantes, c'est marrant, hein, vraiment, ce côté-là et tout, vraiment les grosses, vous êtes vraiment des marrantes et tout. Bah oui, mais toi, ta meuf, elle fait un 34, donc tu trouves qu'on est drôle, mais on n'est pas baisable par contre, tu vois, donc bon, voilà. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot un dimanche à la radio, mais voilà.
Pour
donc
moi, ça va.
Donc c'est toujours ce rapport-là, ouais, qui...
Le regard de l'autre, finalement.
Le regard de l'autre.
C'est toujours l'autre qui renvoie...
L'autre, et alors plutôt la société, parce qu'en fait, ouais, on se rend compte... Moi, je me disais, mais putain, quand j'arrive dans une pièce, et il y a plein de gens, et je me dis, oh là là, je vais être encore la grosse truc et tout, de la pièce, et en fait, les gens s'en foutent. En fait, on est quand même très égocentrés les uns avec les autres, et on n'est pas forcément très attentifs à la différence. On va pas être là en train de dire, oh, elle est moche, rien. En fait, finalement, on va s'inquiéter toujours pour soi-même, en disant, mon Dieu, qu'est-ce que je renvoie comme image, etc. Parce qu'on nous dit qu'il faut renvoyer une image de quelqu'un de fort, de quelqu'un de sûr de soi, etc. Ce qu'on n'est pas forcément. Et de fait, moi, sur les réseaux...
C'est très intégré, finalement.
Oui, c'est très, très intégré, ouais. Ce
jugement intégré que l'autre aura par défaut, soi-disant, sur nous.
Voilà, qu'on pense qu'il aura par défaut, alors qu'en fait, la personne s'en fout complètement et des fois, n'a même pas remarqué, quoi. En fait, c'est la base de la meuf qui dit me regarde pas, j'ai un bouton sur la joue, j'en sais rien, que toi t'as même pas vu. Et c'est un peu ça à l'échelle de toute la vie, de tous les jours, quoi. Il y a un peu de ça. Et les réseaux me renvoient ça, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de retours de gens et j'avais eu un message bouleversant de quelqu'un dimanche qui m'avait dit mais je pleure depuis ce matin, j'arrive pas à m'aimer, je sais pas comment faire, ça me gâche la vie, je suis pas heureuse, etc. Et je me suis dit attends, ça va être compliqué là, moi, parce que ça me fait ça me marque et ça m'atteint énormément, ça me marque beaucoup et je peux pas, ça va être trop compliqué là de répondre à tous les messages comme ça parce que ça va être trop compliqué pour moi, quoi. Et donc et puis ce que je voulais dire, c'est que moi je n'ai pas de solution. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur Amazon là, les retours, j'ai eu retours, les étoiles là,
ouais.
Et il y a quelqu'un qui a dit c'est nul, enfin les gens disent que c'est bien globalement, hein, lisez-le, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui dit c'est nul, il n'y a pas de solution pour perdre du poids, je comprends pas, je perdrai pas de poids avec ce livre. J'ai envie de lui dire mais c'est pas le but en fait, tu t'es trompé,
ça n'est pas une méthode miracle.
Ouais, voilà. Et puis on est les premiers à dire que les régimes ne fonctionnent pas en plus, mais j'ai trouvé ça marrant, c'est nul, je perdrai pas du poids. Enfin, ça m'aide pas. Il n'y a pas de solution pour perdre du poids.
Ouais.
Alors, en fait, non, c'est pas une solution pour perdre du poids. En fait, c'est pas du tout un régime miracle. Ça n'existe pas, en fait. Et nous, on veut pas faire de l'argent sur les kilos en moins. On veut justement faire de l'argent plutôt sur l'estime de soi. Enfin, sur comment essayer de faire en sorte d'aller mieux. Et en fait, on le dit à la fin. Voilà, on aurait aimé vous dire qu'on est grosse et qu'on va bien, mais c'est pas vraiment toujours le cas, en tout cas.
C'est bien plus complexe que ça.
Exactement.
Ça parle en creux de ta sensibilité, là, depuis quelques minutes, tout ce que tu es en train de dire, à travers ton travail avec Mademoiselle Caroline. Mais du coup, à ce moment de l'émission, j'aimerais te proposer de partager avec nous une définition de la créativité, qui permet aussi aux auditeurs, auditrices, de comprendre justement comment toi tu deals avec cette créativité au quotidien. Voilà, en quelques mots.
Alors moi, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'ai toujours trouvé que j'étais pas une vraie créative, parce que j'étais très cartésienne, que j'étais j'étais un peu scientifique, que j'étais un peu carré, pas scientifique parce que bon, j'ai toujours été très nulle, mais bref, très carré, tu vois, pas forcément à rentrer dans des délires, voilà. Et je me dis non, moi j'ai pas de créativité, en fait j'écris des choses et puis voilà. Et donc très complexée par rapport à ce rapport à la créativité là. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement la créativité, c'était ce côté finalement un peu de lâcher prise de temps en temps, tu vois, cette espèce de comment dire, En tout cas, moi, c'est mon lâcher-prise à moi. C'est tous les trucs de développement personnel à la con, genre yoga, méditation, machin. Eh ben moi, ça va être ça. Tu vois, ça va être mon lâcher-prise à moi qui va me dire, ah tiens, je veux parler de ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va être tout ce... Ça va être la chose qui va me permettre de tenir et qui va me permettre de me détendre et me déstresser dans la journée de tous les jours. Et je trouve que finalement, à bien y réfléchir avec le recul, la créativité est un peu partout. Et on n'a pas besoin, finalement, d'être... je sais pas, on peut être chiante et créative. Je sais pas si c'est une bonne définition.
Les auditrices de Radio G qui sont chiantes, vous pouvez être créative. Ne perdez pas espoir.
Non, mais je pense qu'il y a de la créativité chez chacun en fait, ouais. et que soit on souhaite la cultiver, parce qu'en fait voilà, on n'est pas obligé, on en fait ce qu'on veut, etc. Et voilà, et ça fait une part. Voilà, si on peut le faire, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, je suis très heureuse de l'avoir pu le faire avec ma créativité personnelle.
Je t'ai demandé de préparer une petite carte blanche. Tu as choisi un texte assez court, si je ne me trompe pas. Oui. Je vois que tu as ton petit carnet. Tu l'as recopié.
Je me suis dit que c'était bien de l'avoir dans mon petit carnet, tu vois. Toujours,
religieusement.
Ouais. Mais c'est une... Ouais.
Ouais, vas-y, on t'écoute. Carte blanche de Matou.
C'est une citation de Christiane Taubira que j'admire beaucoup. Donc, je commence. C'est « Nous, les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous voulons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence de nos filles, de vos filles. »
En quelques mots, pourquoi est-ce que tu as choisi ce texte ?
Parce que c'est trop bien. Parce que j'aime beaucoup l'empouvoirment de Christiane Taubira, le fait que je trouve que c'est quelqu'un qui montre une voie pour les femmes aujourd'hui, qui est une voie juste, qui est une voie sincère. Et je trouve ça très intéressant ce qu'elle véhicule, son discours. Il me touche énormément. Et puis, c'est un discours qui est féministe et c'est un discours que je veux tenir pour ma fille aussi. Et pour les enfants, les fils aussi, c'est ce discours de dire que voilà, toutes les femmes sont puissantes et qu'elles ont la place pour s'exprimer et qu'elles doivent la prendre.
Et tu viens de boucler la boucle, puisque j'ai commencé en parlant de femmes puissantes. Exactement. En introduction de cette émission.
Et t'as vu ça ? C'est même pas préparé.
Et nous sommes malheureusement déjà à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation
d'On
n'a qu'à inventer.
Merci à toi.
Pour venir parler de ton parcours et de ta créativité, de ton travail d'autrice. Nous pouvons te retrouver donc très facilement sur les réseaux sociaux, mm-hmm. Instagram spécialement,
oui.
Si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est Matou...
CDH. -CDH.
CDH, ouais. Pour ouais. Crayon d'humeur.
Ouais, voilà, exactement.
À l'époque.
Ouais.
Un grand merci. Et merci aussi aux auditeurs, auditrices de partout et d'ailleurs pour ces 40 minutes passées ensemble. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux à nous, Facebook et Instagram. On n'a qu'un émission, on n'a qu'un inventé. N'hésitez pas à partager le podcast de l'émission que vous pouvez télécharger très facilement sur le site radio-g.fr. Il y a une page dédiée à l'émission, à en parler autour de vous. Et à très bientôt sur l'antenne de Radio G. On se quitte en musique avec le générique. À bientôt, Matou.
À bientôt.
Merci.